Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à aborder la question de la construction géométrique de l'image du point de vue des choix qui sont faits d'actualiser telle ou telle caractéristique de ce qui est perçu dans le champ visuel humain en faisant l'hypothèse que ces choix représentationnels sont également des choix ontologiques en ce qu'ils attirent l'attention sur certaines propriétés du réel et en négligent d'autres, en même temps qu'ils affirment la prééminence de certains points de vue sur d'autres points de vue et constituent ainsi des commentaires sur le rapport du sujet au monde. Je notais que ce thème avait été déjà abordé sous un angle particulier, si l'on peut dire, par des auteurs qui s'étaient penchés sur les implications épistémiques, théologiques, idéologiques de telle ou telle option de perspective. Par exemple, Panofsky, lorsqu'il avait montré comment la perspective linéaire avait mis en évidence ce paradoxe de ce que j'appelle le naturalisme, en combinant dans une technique figurative la description d'un monde unifié dans l'espace rationnel de la res extensa avec le point de vue subjectif de l'observateur subordonnant le monde à son regard puisqu'il est axé à partir d'un point de vue central vers un point de fuite. Ou bien Joseph Körner, dans son analyse des effets de la doctrine luthérienne sur les crucifixions de Cranach, avec le passage du point de vue individuel introduit par la perspective oblique dans le tableau de 1503, passage au point de vue unifiant partagé par tous les chrétiens que la vue frontale du tableau de 1547, souvent appelé d'ailleurs le sermon de Luther, révèle. Et enfin, Pavel Florensky et son apologie de la perspective inversée, typique de certaines icônes russes, qui parviendrait, selon Florensky, beaucoup mieux que la perspective linéaire, donc, comme son nom l'indique, elle inverse les prémices de construction, à donner accès à la transcendance divine en instaurant une complète incommensurabilité entre l'espace profane du spectateur et l'espace sacré de l'image. Chacun de ces auteurs s'est intéressé à un aspect particulier de la géométrie représentationnelle et à ses corrélats idéologiques, pourrait-on dire, mais il fallait aller plus loin, du moins si l'on prend au sérieux l'hypothèse d'un lien entre option ontologique et dispositif figuratif. Il fallait examiner l'ensemble des transformations géométriques disponibles pour la représentation iconique sur une surface plane. Et ce pas en avant a été facilité par le maître ouvrage de Margaret Hagen, que j'ai évoqué lors de la dernière leçon sur la géométrie de la représentation, Varieties of Realism, dans lequel j'ai largement puisé lors de cette dernière leçon. Cette psychologue de la perception propose en effet une typologie simple fondée sur la combinaison de trois facteurs. D'abord le point de vue, c'est-à-dire si l'image est construite à partir d'un point de vue unique, comme dans la perspective linéaire, ou multiple, comme dans la représentation dédoublée, la split representation, et si la distance du point de vue est proche, modérée ou infinie, infinie étant ici l'infini optique. Ensuite, le type de transformation géométrique au moyen duquel les invariants d'une réalité en trois dimensions passent ou ne passent pas dans une image en deux dimensions. Je rappelle qu'il s'agit des quatre types de transformations que sont les transformations métriques dans lesquelles la dimension, la forme, la valeur des angles et le parallélisme sont conservés, les transformations par similitude, dans lesquelles on perd les invariants de dimension, les transformations affines, dans lesquelles seul le parallélisme est maintenu, et les transformations projectives, dans lesquelles à peu près tous les invariants sont transformés, et c'est évidemment la base de la perspective linéaire moderne, albertienne et post-albertienne. Troisième élément, ce sont les techniques de composition qui privilégient soit le simple remplissage de l'espace avec des figures sans épaisseur, soit qui privilégient de restituer l'illusion de volume des solides. Alors, on a donc de ce fait un certain nombre de facteurs qui sont commandés en premier lieu par la nature du point de vue, unique ou multiple, et qui correspondent à différents styles qui sont identifiables dans telle ou telle partie du monde. Et j'avais commencé à explorer, lors de la dernière leçon, les conséquences de la combinaison entre le point de vue unique et la géométrie projective dans l'art occidental à partir du XVe, quelque chose qui n'était pas très nouveau parce que c'est les bases de la perspective moderne. Et je voudrais continuer maintenant à examiner les conséquences du point de vue unique, mais dans une géométrie non plus projective, mais affine, et c'est l'art japonais. Ou plus exactement, une peinture japonaise dans un style qu'on dit le style Yamato-e, et que l'on définit traditionnellement comme le style japonais classique, par contraste avec le style chinois, c'est-à-dire importé de Chine, et avec le style occidental, qui utilise largement la géométrie projective, et qui interviendra d'ailleurs assez tôt, dès le XVIIIe siècle. C'est un style qui a fleuri jusqu'au XVe siècle, mais on en trouve de nombreux exemples bien après. Alors j'ai pris comme illustration en fait un exemple tardif, c'est un paravent de l'ère Meiji, mais qui reprend les mêmes principes que celui de ce style Yamato. Et j'en ai pas trouvé de bonnes illustrations de l'époque, disons. Alors ce sont des images qui sont à point de vue unique. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, ça peut paraître paradoxal alors qu'il y a différentes vignettes. Elles sont donc comme les images européennes gouvernées par la perspective linéaire, mais avec un point de vue situé à l'infini optique et à une distance, et non à une distance modérée, comme c'est le cas dans la perspective linéaire. Enfin, le plan de l'image est oblique à la plupart des surfaces dominantes dépeintes, c'est assez visible ici, et c'est tout à fait caractéristique de ce style, c'est notamment dès qu'il y a des édifices, ils sont vus en oblique, et c'est donc une projection affine, et non une projection projective, comme dans le cas précédent. Alors, pourquoi est-ce que c'est un point de vue unique? La plupart de ces images, on les trouve assez souvent sur des paravents, en effet, mais aussi sur des rouleaux, sont composés d'un ensemble de scènes distinctes. Mais il ne s'agit pas d'un système à point de vue multiple, car les artistes japonais, au lieu de dépeindre des scènes sur le modèle de la fenêtre unique, à la manière d'Alberti, montraient différents événements à différents moments dans un même espace pictural, un peu à la manière d'une bande dessinée. Donc, ça se suivait comme ça, et ça racontait une histoire. Je dois dire que je ne sais pas quelle est l'histoire qui est ici racontée. Chacune de ces unités est généralement séparée des autres par des bandes horizontales et verticales, ou bien, comme c'est le cas ici, c'est un dispositif très classique, par des nuages, ce qui permet de bien sectoriser, en quelque sorte, chacune des scènes. C'est une technique qui a été utilisée tout particulièrement pour les illustrations sur rouleau de récits. Je pense en particulier au dit de Genji, vous en avez ici plusieurs exemplaires. Chacune des vignettes est donc dessinée à partir d'un point de vue unique, même lorsqu'elles sont juxtaposées. Et ces scènes illustrent ainsi le caractère systématique d'un point de vue très élevé, en plongée, en contraste avec le point de vue européen, qui est presque toujours à hauteur d'homme. Les maisons sont aussi assez souvent représentées sans les toits. On en a un exemple ici. Ou bien, oui, ici par exemple. Un peu comme dans le diable boiteux de Le Sage, on retire les toits pour voir ce qui se passe dans les maisons. Et ce qui permet évidemment de dépeindre des scènes d'intérieur. De ce fait, l'artiste et évidemment le spectateur ne sont pas placés par la perspective dans la composition de l'image, comme c'est le cas dans la peinture européenne. L'image est un monde en soi, et ce n'est pas une fenêtre sur le monde qui est une extension du moi, ce n'est pas un prolongement du point de vue du spectateur, c'est un monde qui se déroule indépendamment de la personne, des scènes qui se déroulent indépendamment de la personne qui les regarde. L'infini optique du point de vue est manifeste dans le traitement des personnages. Si l'art japonais suit la convention classique que plus la figure est placée haut dans l'image, plus elle est distante, hein, donc vous avez ici des personnages, et plus on monte, plus on suppose qu'ils sont distincts dans la profondeur du champ. Néanmoins, les personnages ont tous à peu près la même taille, quel que soit le remplacement. Il n'y a donc pas de diminution de la taille des personnages à mesure qu'on recule dans le champ. De même, il n'y a pas de convergence apparente des bords parallèles dans le lointain, qui est un trait caractéristique de l'infini optique. Dans certains cas, les bords sont même divergents. On a ici un exemple. Alors, c'est probablement une maladresse de l'artiste, hein, ici. Alors que dans la perspective linéaire, il devrait être convergent. Ce style caractéristique de la projection affine, bien qu'il se soit poursuivi jusqu'au XIXe siècle, a commencé à être délaissé avec l'arrivée au Japon des techniques paysagères importées de Chine au XVe siècle. Et les peintres utilisèrent alors des techniques de distance atmosphérique, du même, pas très éloignées d'ailleurs de celles qu'on utilisait en Occident à la même époque, et de proportionnalité des figures, ce qui implique un abandon de l'infini optique et l'adoption d'un point de vue modéré à distant, comme dans cette image qui est beaucoup plus caractéristique du style chinois. À la fin du XVIIIe siècle, et malgré l'isolement volontaire du Japon, la perspective occidentale fondée sur la géométrie projective devient relativement commune. Les images les plus classiques, ce sont celles-là, ce sont des intérieurs de théâtre kabuki, qui sont toutes dépeintes à peu près de la même façon, encore que s'y maintient, on a donc la convergence vers le point de fuite, donc c'est à la différence du parallélisme qui caractérisait la géométrie traditionnelle de l'image auparavant. Cela dit, on a quand même un point de vue qui est encore en plongée par rapport à la hauteur d'observation de la perspective linéaire en Occident. En conclusion donc, dans le système, dans le style japonais Yamato-e, le plan de l'image est oblique par rapport au plan du sol, c'est donc une vue en plongée, et par rapport aux surfaces dominantes de la plupart des objets dépeints. Toutes les lignes sont parallèles et les plans sont séquents, ce qui est caractéristique donc d'une projection affine. Mais on peut aussi envisager une projection affine à partir d'un point de vue multiple et non pas d'un point de vue unique, comme c'est le cas dans ce style d'image japonaise. Et c'est tout particulièrement le cas dans les images de la côte nord-ouest. On va donc revenir à la côte nord-ouest. Par contraste avec l'art européen ou avec l'art japonais, le style en apparence le plus commun de la côte nord-ouest est fondé sur un point de vue multiple, tandis que la distance du point de vue est située à l'infini optique et le plan de l'image est séquent par rapport aux surfaces dominantes des objets dépeints, ce qui le rapproche, pour ces deux derniers traits, de l'art japonais. Ce style en apparence le plus commun, c'est bien évidemment la figuration des doublés, ou la représentation des doublés, ou éclatés, quelle que soit la terminologie qu'on emploie pour désigner cette technique, qui donc décompose l'objet figuré en divers plans, généralement au moins les deux flancs déployés de part et d'autre, d'un axe de symétrie, chacun des plans représentant un point de vue différent sur l'objet. En fait, comme on l'a vu dans la leçon que j'ai consacrée à la côte nord-ouest, la situation est beaucoup plus compliquée, puisque la figuration éclatée ne concerne qu'un ensemble d'images, celle qui se réfère à des blasons totémiques, en tout cas c'est le cas chez les Tsimshian, les images animiques ne suivant pas cette convention ou étant représentées en 3D par des sculptures en ronde bosse. Alors, dans un livre important sur l'art de la côte nord-ouest, Bill Holm, le livre s'appelle « Northwest Coast Indian Art, an Analysis of Form », publié en 1974, Bill Holm propose de distinguer trois modes de figuration distincts sur la côte nord-ouest, qu'il appelle d'abord un mode configuratif, c'est-à-dire dans lequel l'objet représenté, qui est généralement un animal ou un esprit animal, conserve une silhouette reconnaissable et remplit une grande partie du champ sans l'occuper entièrement. On en a ici un exemple qui est tiré de Holm. Donc c'est un loup. On voit là, il est représenté sur le bord d'un chapeau. Il est donc déployé et un peu aplati et vu d'en haut. Le deuxième mode, c'est un mode que Holm appelle expansif, dans lequel l'animal est fendu et réarrangé de façon à figurer ces différents plans sur un même plan. Mais c'est une image dans laquelle le lien anatomique entre les différentes parties est maintenu dans ces grandes lignes. En tout cas, ces liens sont plus ou moins reconnaissables, et c'est cela qu'on appelle ordinairement la représentation des doublés. J'en ai montré des exemples. Donc là, c'est un castor. Alors on peut. La difficulté ici, bien sûr, c'est qu'il est dépeint sur une surface en trois dimensions. On reconnaît ici la queue, par exemple. Il est donc ici la tête. Ici l'incisif, donc il est dédoublé, décomposé, mais on peut reconstituer le corps en discernant des liaisons anatomiques plausibles entre les différentes parties du corps. Et le dernier mode, c'est un mode dit distributif, dans lequel les parties de l'animal sont figurées de façon à remplir complètement l'espace dépeint, ce qui conduit à désagréger complètement la silhouette générale et à négliger les liaisons anatomiques. Et la nécessité, au fond, de saturer l'espace dépeint rentre ici en conflit avec l'exigence de réalisme iconique, ce qui rend la plupart du temps impossible de reconnaître l'animal figuré, même de la part de membres de la culture qui n'ont pas été informés des intentions de l'artiste. Il y a souvent des débats entre les informateurs sur ce que tel ou tel animal figure. Donc voilà un exemple. Donc là, l'animal est complètement identifiable, il a été complètement décomposé, et sans qu'on puisse reconnaître les liaisons anatomiques qui permettrait de le reconstituer. Or, la géométrie représentationnelle de chacun de ces modes n'est pas exactement semblable. La qualification habituelle de l'art de la côte nord-ouest comme une transformation affine, comme utilisant une transformation affine, s'applique seulement au mode configuratif et au mode expansif, c'est-à-dire les deux derniers modes qui sont fondés sur la, disons, la représentation des doublés, et plus précisément au mode expansif qui pousse la représentation des doublés jusqu'à une dislocation complète des parties de l'animal. La différence entre les deux, elle se mesure dans le choix retenu pour déterminer la face dominante de l'animal, lorsque la face est représentée donc de face, y compris par deux profils accolés, c'est-à-dire on ouvre la face en dépliant les deux profils. Il s'agit d'une transformation affine et d'un mode expansif. Lorsque la face est représentée de profil, il s'agit d'une géométrie métrique et d'un mode configuratif. Mais les deux modes sont fondés sur des points de vue multiples. Et il faut examiner un peu cette caractéristique en détail. Que le mode expansif, c'est-à-dire de ce type-là, ou la figuration éclatée, si on veut l'appeler ainsi, soit fondée sur des points de vue multiples, c'est évident. Comme le note Boas dans Primitive Art, quand je vois un animal vivant de profil, je ne vois qu'un œil, mais je sais qu'il a un autre œil que je ne vois pas. Et une représentation réaliste de cet animal, c'est-à-dire une représentation qui va figurer toutes ses qualités, ne peut donc pas se contenter de dépeindre un seul œil. Elle doit figurer les deux. Et figurer les deux yeux simultanément, c'est donc combiner deux points de vue. Le point de vue réel que j'ai sur l'animal que j'ai devant les yeux et le point de vue que je me représente en imagination de son autre profil qui est caché à ma vue. Ces remarques sont très justes, mais il faut toutefois distinguer dans la figuration éclatée entre ce qui relève d'une figuration réellement fondée sur des points de vue multiples, d'une figuration fondée sur ce que l'on pourrait appeler des vues amplifiées de l'animal à dépeindre. On va prendre un exemple qui a été retenu par Boas lui-même. C'est une image d'un chabot. Chabot, c'est le nom qu'on donne en français à un poisson qui s'appelle, en anglais, qui est appelé dans l'anglais de cette région, le sculpin, qui est peint sur un chapeau en bois. Alors, le chapeau en bois est vu d'en haut, mais le poisson est vu d'en dessous, c'est-à-dire on voit son ventre. C'est une image de l'animal donc, qui est vue à partir de la partie ventrale et qui est déployée à partir de cette partie ventrale, comme s'il avait été ouvert, en somme, longitudinalement par le dos et déplié ainsi à partir de cet axe central fourni par le ventre. Et comme s'il avait été donc étalé à la surface du chapeau, le ventre étant distendu du fait de la position centrale qu'il occupe sur le sommet conique de cette coiffe. Donc là, c'est une vue dépliée et non pas une vue à double point de vue, hein, ou à multiples points de vue. C'est un seul point de vue sur un animal qui a été déplié. Le deuxième exemple, c'est un bracelet qui porte un motif d'ours, donc que j'emprunte toujours à Boas, et que Boas décrit ainsi. L'animal est imaginé coupé en deux de la tête à la queue, de sorte que les deux moitiés se rejoignent seulement au bout du nez, ici, et au bout de la queue. Et la main est placée. Alors, évidemment, c'est un bracelet qui est déplié, mais qui est circulaire. Donc, la main est placée à l'intérieur de ce bracelet, et l'animal, les deux flancs de l'animal, en serrent la main et sont reconstitués dans leur volume autour de la main de la personne qui porte le bracelet. Et la méthode adoptée, elle est donc identique à celle appliquée dans le chapeau, sauf que l'ouverture centrale est ici beaucoup plus large et que l'animal a été représenté en une surface cylindrique et non dans une surface conique. Ça, c'est le commentaire de Boas. Toutefois, les deux modes de figuration ne sont pas du tout identiques, comme le dit Boas, puisque l'image de l'ours, c'est une figuration de ces deux flancs symétriques distribués de part et d'autre d'un cercle. Donc c'est bien un point de vue multiple qui est d'une certaine façon visible, en ce sens qu'on ne peut pas avoir la même vue lorsque l'on regarde le bracelet, selon que l'on regarde la paume ou le dessus de la main, on aura un flanc ou l'autre flanc de l'ours. Donc les points de vue multiples ne sont pas présents simultanément ici dans l'image. En revanche, l'image du chabot, du poisson, elle est construite à partir d'un point de vue unique, puisque c'est la vue centrée sur le ventre du poisson qui se déploie ensuite dans toutes les directions pour développer un volume de façon proportionnelle sur un plan unique. Donc plutôt que de parler de figuration dédoublée ou éclatée en général, il faut, pour la côte nord-ouest, spécifier à chaque fois s'il s'agit d'un point de vue unique dont les bords sont dépliés, comme c'est le cas du chapeau, du chabot sur le chapeau, ou s'il s'agit d'un véritable point de vue multiple, à l'instar de cette image très classique d'un ours qui, elle, est constituée la combinaison de deux points de vue avec cet indice que l'on trouve caractéristiquement en haut, qui est la fente, c'est-à-dire c'est le point de pliage, en quelque sorte, entre les deux points de vue. C'est à partir de cet axe que le pliage entre les deux profils accolés se fait. Donc la tête, ici, elle est située en bas, dans la partie centrale. Les pattes sont représentées les pattes avant sont représentées de part et d'autre et les pattes arrière sont représentées en haut et le corps est au milieu décoré avec une autre face. Donc on voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'une simple image dédoublée à partir d'un axe de symétrie centrale comme le chabot. Il y a bien un axe de symétrie centrale, mais les plans sont multipliés sur les bords. C'est au fond la présentation d'une demi-douzaine de vues du corps de l'animal, qui sont évidemment des vues extrêmement stylisées, mais qui conservent plus ou moins la cohérence de leur distribution anatomique par rapport à l'image de l'animal non identifiable que nous avions vu dans une des images précédente, c'est-à-dire celle-ci. Il y a une différence entre celle-ci et celle-ci. Alors voyons à présent pourquoi ces images sont caractérisées par l'infini optique. L'infini optique définit les situations dans lesquelles l'observateur ne construit pas l'image comme une extension de son champ visuel, comme quelque chose qu'il observe à travers une fenêtre, pour reprendre le modèle d'Alberti, mais comme une représentation d'un ensemble de qualités autonomes, caractéristiques de l'objet dépeint, ici, un animal. Dans les images de la côte nord-ouest, ces qualités distinctives d'un animal, elles répondent à un code très précisément définie. Comme Boas l'a montré, le castor est toujours figuré avec de grandes incisives, donc on voit les espèces de grands rectangles arrondis, un gros nez rond, une queue écaillée ou quadrillée, et tenant un bâton entre ses pattes avant. L'ours est toujours figuré avec de larges pattes, avec une grande bouche, avec des dents acérées, avec une langue qui dépasse, avec un gros nez rond, etc. En outre, tant dans la figuration expansive, c'est-à-dire la figuration de ce type, que dans la figuration configurative, c'est-à-dire une figuration qui se rapproche d'une transcription en deux dimensions, d'une image en trois dimensions, comme celle qu'on a vue tout à l'heure sur le premier chapeau. L'intégrité anatomique de l'animal est maintenue. Donc ces images représentent des vues multiples d'un objet unique et non une multiplicité d'éléments corporels disjoints. Or, les lignes de projection sont toujours parallèles. Il n'y a jamais dans ces images, par exemple, un raccourcissement des corps avec, par exemple, des pattes arrière qui seraient plus petites que les pattes avant pour tenir compte de cette diminution projective. Comme, au fond, dans les images, je reviendrai sur ce thème, sur écorce du nord de l'Australie, l'animal est dépeint dans son intégralité autonome, non comme s'il était dépendant d'un point de vue qui est porté sur lui, donc non comme s'il était dépendant d'une distance d'observation proche ou même moyenne. Il est à l'infini optique. L'infini optique, c'est simplement que la distance est supposée tellement grande que les détails, en quelque sorte, de volume se dissipent. Il est probable que le point de vue multiple est indissociable de l'infini optique. Et en tout cas, les deux traits sont très généralement combinés. On peut penser, en effet, que si le point de vue multiple était combiné, par exemple, à une géométrie projective, donc imaginez quelque chose de ce type-là, combiné à une géométrie projective et à une distance modérée de l'observateur, le résultat serait extrêmement difficile à interpréter dans une même image. Je n'en connais pas d'exemple. Il y en a peut-être, peut-être des exercices d'illusion d'optique, mais je n'en connais pas. Donc, muni de ces distinctions, on peut maintenant envisager de catégoriser les images de la côte nord-ouest en fonction de leur géométrie projective. On peut d'abord faire un constat général. Lorsque le plan dominant du sujet dépeint est la face, le style est généralement expansif au sens de Holm, c'est-à-dire il représente un animal dédoublé et la géométrie est affine. Lorsque le plan dominant est une vue de profil, le style est généralement configuratif, au sens de Holm, et la géométrie est métrique. On peut en avoir un exemple de ce dernier cas de figure, un exemple de style métrique. C'est l'image, tiens, vous n'avez pas plus d'images que moi, d'un monstre marin. Ah voilà. Wasgo, donc on a une image de profil à partir d'un point de vue unique, là, et dans le style configuratif, c'est-à-dire qu'on a la forme générale de l'animal. C'est un type de composition assez commun. Un autre type de composition métrique est beaucoup plus rare. Je l'emprunte également à Boas, qui est une mine pour ça. C'est celui-là, c'est le requin. Ça, c'est une gravure sur ardoise. Alors, vous n'êtes pas. Oui, moi, j'ai une vue déformée sur l'ordinateur, mais heureusement, elle n'est pas trop sur l'écran. Donc, le requin, dit Boas, est toujours figuré ainsi. je le cite, la face du requin est toujours représentée ainsi parce que ses symboles se voient mieux dans cette position. On a ici donc une vue dépliée à partir du dessous encore, et non une véritable représentation des doublés au sens de deux profils accolés. Donc c'est encore un point de vue unique avec un dépliement en quelque sorte, comme l'image tout à l'heure du chabot sur le chapeau. Il en va de même pour une autre image qui est celle d'un oiseau tonnerre qui est également empruntée à Boas. C'est une vue métrique de face et non plus de profil, à point de vue unique, dans le style configuratif, même si l'image ressemble superficiellement à une représentation des doublés. Ce qui est caractéristique des représentations des doublés ou des représentations expansives, c'est que la jonction des deux profils est toujours nettement marquée, alors qu'ici, vous voyez, elle ne l'est pas. L'exemple classique, qui est évidemment aussi tiré de Boas, c'est celui de l'ours Tsimshian, le fronton de maison. Donc vous vous souvenez, ici, c'est la porte d'accès à la maison. Et on a ici, donc, cette, on peut faire comme une sorte de ligne rayée autour duquel organiser la pliure de l'animal. Or, ces images expansives de profils accolés de ce type, ce ne sont pas des images métriques. Elles résultent, elles, d'une projection affine. La partie droite de la composition s'élève vers le haut à droite, la partie gauche s'élève vers le haut en oblique, donc vers la gauche du champ, et ça, c'est tout à fait caractéristique d'une projection affine comme celle qu'on a vue pour les peintures japonaises. Vous vous souvenez que la caractéristique de la peinture japonaise dans le style que nous avons examiné, c'est que les bâtiments sont toujours vus, sont disposés en oblique sur le plan de l'image. Eh bien, c'est le cas ici aussi, avec ces images à point de vue multiple. On a ici l'usage de deux géométries représentationnelles, en fait, dans la côte nord-ouest, dans certaines images de face, dans les images de profil. Là où le point de vue est manifestement unique, on a une géométrie métrique. Là où l'image est fendue, est distribuée dans l'espace selon plusieurs points de vue, avec des vues obliques se déployant comme ici de part et d'autre d'un axe de symétrie, on a des transformations affines. Donc on a l'usage de deux types de géométrie, de la même façon que j'avais noté qu'il y a deux types d'images du point de vue des conditions de leur usage et même de leur conceptualisation chez les Tsimshian, des images qui renvoient à un monde animique, d'autres qui renvoient à un monde totémique. On a ici l'usage de deux types de géométrie dans un même art, ce qui n'est pas tout à fait inattendu, mais on a d'autres exemples, mais ici c'est assez net et on ne peut le distinguer qu'en étant assez attentif aux images, bien sûr. Alors avant d'essayer de déterminer quels sont les styles qui correspondent plutôt à des images animiques ou plutôt à des images totémiques, examinons un style, lui, qui est purement métrique dans toutes ses manifestations, et c'est l'art égyptien. Un trait tout à fait saillant de l'art de l'Égypte ancienne, qui a été souvent noté, c'est la stabilité de ces conventions iconographiques sur près de 3000 ans. Ces conventions, elles ont trois caractéristiques principales. Des points de vue multiples, situés à l'infini optique, et dans la mesure où le plan de l'image était toujours parallèle aux plans principaux des objets dépeints, l'usage d'une projection métrique. Alors, on peut parler de points de vue multiples dans les peintures égyptiennes pour les figurations d'oiseaux et d'humains. C'est tout particulièrement net pour les figurations d'humains, figurations dans lesquelles chaque partie du corps paraît avoir été dépeinte indépendamment des autres parties, selon un point de vue particulier. Donc les hanches étaient toujours représentées, donc on prend un exemple classique, les hanches étaient toujours représentées de profil, et le haut du torse et les yeux étaient toujours dépeintes de façon frontale. C'est ce qui donne cette allure de torsion si caractéristique de la figuration humaine dans l'art égyptien. On en a ici un autre exemple aussi très classique, avec des positions qui sont évidemment, qui nous paraissent complètement irréalistes, parce qu'on voit mal comment cette jeune danseuse au milieu pourrait tourner la tête de cette façon. Mais ce n'est pas une question d'être réaliste. Ce qui est réaliste ici, c'est de donner plusieurs points de vue sur le corps de cette jeune femme. Alors, le contraste est évidemment frappant pour les yeux, puisqu'ils sont toujours dépeints ici, non pas comme on les verrait de profil, mais comme on les verrait de face. Toutefois, et à la différence de l'usage des points de vue multiples dans la représentation dédoublée de la côte nord-ouest, il y a ici comme un effort d'intégration des divers points de vue dans un schéma corporel unitaire, avec évidemment les surprises de la torsion et même de la contorsion des corps, mais il y a néanmoins la volonté de les réunir à l'intérieur d'un schéma corporel unitaire. En revanche, les autres objets, tant les artefacts que les animaux, à l'exception des oiseaux, sont dépeints depuis un point de vue unique. Donc là, on a une combinaison entre points de vue multiples pour les corps humains et les corps des oiseaux et points de vue unique pour les artefacts. Dans son livre « Primitive Art », Boas, toujours, écrit des peintures égyptiennes, je le cite, « Elles ne sont en aucune façon des preuves d'une incapacité à voir et à dépeindre selon les règles de la perspective, elles montrent simplement que l'intérêt des gens portait au premier chef sur la représentation des symboles. » C'est une autre façon de dire que la figuration à partir de points de vue multiples permet d'inclure un plus grand nombre de qualité de l'objet dépeint que la figuration à partir d'un point de vue unique. Le point de vue multiple, il est beaucoup plus systématique, par exemple, dans les scènes complexes, comme celle-ci. Alors là, c'est un dessin schématique. La scène n'est pas très, dans son état original, pas très facile à discerner. Or, on voit bien ici que chaque sujet, les personnes, les plantes, l'animal, les poissons, est dépeint comme s'il était devant le peintre, indépendamment de sa position dans la scène générale. Il en résulte donc une combinaison entre des vues aériennes et des vues frontales, des organismes et des objets qui sont donc dépeints selon des orientations en apparence toutes divergentes. Et ici, donc, on a une multiplication des points de vue dans une scène unique qui induit, évidemment, parfois des difficultés dans l'interprétation des rapports entre les composantes de l'image. Alors, du point de vue de leur orientation dans un continuum droite-gauche, par exemple, il n'y a pas de difficulté. En revanche, le rapport plus près, plus loin est figuré par la superposition, par exemple, des poissons, devant la barque, ou de ce personnage devant la plante, mais qui, elle, est construite dans une orientation différente que le personnage. Qu'est-ce qui est privilégié ici ? Ben, c'est la précision dans la description de chaque élément, de chaque objet pris individuellement, et ceci au dépens de la précision, ou même de la vraisemblance perceptive, de la description de la scène dans son ensemble. C'est chaque objet individuellement que l'on s'efforce de reproduire avec véracité, et non pas une scène complète qui nous paraît, en effet, formés que nous sommes à la perspective linéaire, complètement contradictoire dans ses principes de composition. D'une façon générale, les associations entre les éléments ne visent pas à restituer comme un instantané d'un événement qui se serait réellement déroulé en un endroit, à un moment particulier. Ces images visent à révéler plutôt un réseau de correspondances entre des composantes, soit d'un existant, soit d'une situation, décrites à chaque fois de la façon la plus précise possible. Si un souverain, par exemple, et on en a de nombreux exemples dans les peintures des tombes, est figuré dans un bateau, c'est pour signifier qu'il avait un bateau, ou bien qu'il allait à la chasse et à la pêche en bateau, ou bien qu'il ira à la chasse et à la pêche dans l'au-delà avec un bateau, qui est probablement aussi déposé dans la tombe. Ce n'est pas pour représenter une chasse au canard particulière auquel ce souverain aura participé à un moment particulier de sa vie. Donc c'est tout sauf une peinture narrative qui va raconter des histoires et qui va dépeindre des événements singuliers. Chaque scène dans cette peinture est un tableau d'attributs dont la nature doit pouvoir être identifiée sans équivoque. Alors, cette indifférence aux particularités du moment est aussi évidente dans le parti pris de situer les points de vue à l'infini optique, comme dans les images de la côte nord-ouest et dans les images japonaises, mais avec des conséquences différentes dans l'apparence des images, du fait notamment de différences dans la construction des angles, puisqu'il s'agit dans le cas égyptien d'une projection métrique, c'est-à-dire d'une projection dans laquelle le plan de l'image est absolument parallèle au plan de l'objet dépeint. Or, une combinaison entre une distance d'observation située à l'infini optique et des points de vue multiples constitue sans doute la meilleure option lorsque l'on souhaite dépeindre des objets singuliers sous leur forme la plus immédiatement reconnaissable. Si on prend en compte, au fond, que la peinture égyptienne est pour l'essentiel une entreprise consistant à dépeindre sur les parois des tombes des objets et des attributs liés aux défunts, en complément des objets réels qui étaient entreposés dans ces tombes, et afin de faciliter la vie de ce défunt dans l'au-delà, alors on peut comprendre qu'il ait été jugé nécessaire que la peinture soit la moins ambiguë possible. En un sens, les objets dépeints, le mobilier, les vases, les outils, les embarcations, etc., avaient le même type de stabilité et de persistance physique que les artefacts effectivement déposés dans les tombes. Et c'est une impression qui est obtenue de façon simple et automatique par une transformation métrique depuis l'infini optique de tous les objets en trois dimensions. Le résultat était un peu comme si on orientait une source de lumière puissante perpendiculairement, donc de façon orthogonale, aux objets que l'on souhaitait dépeindre depuis une très grande distance, découpant ainsi une ombre portée sur une surface plane, et cette ombre portée, ou la découpe en somme provoquée par la projection de cette lumière, était ensuite peinte par l'artiste. Donc en maintenant le plan de l'image parallèle au plan de l'objet à dépeindre, la projection orthogonale aboutit à une grande netteté, à une grande permanence des formes. Les images semblent des décalques du plan principal de l'objet dépeint, clairement reconnaissable dans toutes ses dimensions et sans aucune des variations susceptibles de produire des illusions qui interviennent lorsque le plan de l'image est oblique par rapport au sujet dépeint. En ce sens, la projection métrique est un peu une sorte d'inversion symétrique de l'anamorphose. elle maintient une forme en éliminant toute possibilité d'illusion perceptive. Alors, quelles sont les implications des considérations qui précèdent sur la compréhension des différences dans les styles représentationnels et dans les effets recherchés dans les images par ceux qui les produisent? Reprenons pour cela les diverses traditions iconographiques qu'on a examinées jusqu'à présent. Et reprenons en particulier la question des invariants métriques dans l'art égyptien. On vient de voir que l'effet principal de la projection métrique dans la peinture égyptienne était la préservation parfaite de la forme de l'objet dépeint. Ceci est très net lorsque les images dépeignent surtout des artefacts, comme c'est le cas ici dans cette peinture sur un cercueil. On le voit ici, hein, le trône, des tables basses, ou des tables, des guéridons, puis des vases, des braseros, etc. Donc, tous ces objets, ces artefacts, conservent leurs angles droits et le parallélisme est maintenu dans le rapport spatial entre le bord inférieur et les bords supérieurs des objets, en sorte que la rigidité de la préservation de la structure initiale de ces objets devient visuellement manifeste. On ne peut pas ne pas penser que l'exactitude de cette transposition de la structure spatiale des objets à surface plane n'ait pas été recherchée. Quant à la symétrie parfaite du contour des objets curvilignes, prenez les vases ici, ils sont parfaitement symétriques, ça veut dire que c'est une projection métrique parfaite. Il n'y a pas de déformation. Cette symétrie, elle atteste du soin apporté à représenter des images qui sont absolument parallèles au plan principal de l'objet dépeint. En outre, il est clair que le peintre était ici tout à fait indifférent à la représentation du rapport entre des objets visuellement proches et visuellement lointains qu'il aurait rendus par un échelonnement, par exemple, vertical, comme on le fait dans la peinture japonaise, pour indiquer ce qui est au plus près et ce qui est plus éloigné. Chacun des items, est figuré individuellement à partir d'un point de vue singulier, en aucune façon dans un point de vue unitaire, qui est situé à l'infini optique, donc une projection métrique parfaite, et sans que l'on cherche à établir entre les objets un rapport différentiel de perspective. Et si chaque artefact est figuré à partir d'un seul point de vue, l'image étant composée donc d'autant de points de vue qu'il y a d'artefacts, en revanche, la représentation des figures humaines est bien fondée, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la combinaison interne à la figure de différents points de vue, donc frontal pour les yeux et pour le haut du corps, latéral pour les hanches, les jambes et le visage, etc. Donc la structure d'un corps humain, elle est en effet plus diversifiée que celle d'une chaise ou d'une table ou d'un vase, et le nombre plus grand de plans que comporte un corps humain, et qui sont différemment orientés les uns par rapport aux autres, dans le réel, c'est en trois dimensions, a incité les artistes égyptiens à les représenter chacun depuis un point de vue différent. Donc ce qui est remarquable dans ce parti pris stylistique, c'est sa permanence, au fond, pendant la douzaine de siècles au cours desquels l'art de l'Égypte antique a fleuri, même dans des périodes plus tardives où des innovations de forme se sont produites dans la disposition des corps. Je pense à cette image qui est très classique de l'acrobate Et la convention, ici, elle semble s'être réduite à une représentation en profil, avec une pose évidemment moins hiératique que celle auxquelles nous sommes habituellement confrontés dans les figures humaines. Mais même dans ce cas, on voit que l'œil continue à être représenté selon une convention comme s'il était vu frontalement et non latéralement comme le reste du corps, l'image étant donc construite ici à partir d'une combinaison entre deux points de vue, qui est le point de vue donc latéral, mais aussi un point de vue frontal réservé à la figuration de l'œil. En résumé, il n'y a probablement aucun autre type de figuration, à l'exception des plans d'architecte en élévation contemporains, qui soit aussi parfaitement métrique que la peinture de l'Égypte ancienne. Comme on l'a vu, la transformation métrique, c'est celle qui conserve le plus grand nombre d'invariants de l'original, et en ce sens, elle produit, au fond, les représentations les plus fidèles aux propriétés géométriques de l'objet que l'on cherche à dépeindre. En dépit donc du caractère figé, hiératique des figures, en dépit de l'absence de profondeur de champ, en dépit de la bizarrerie apparente de la construction de l'espace, on peut donc dire que la peinture égyptienne est au fond la plus réaliste de toutes les traditions figuratives, en ce qu'elle restitue le plus grand nombre d'informations sur les réalités physiques qu'elle représente. Alors, il n'est pas impossible que le choix de la géométrie métrique ait été dicté par le désir de donner aux objets figurés une stabilité dans la forme et donc une sorte de durabilité et d'exactitude expressive en tout point analogue à celle des artefacts déposés dans les tombes. C'est une précaution compréhensible si l'on se souvient que les uns et les autres devaient servir aux défunts durant un séjour dans le royaume des morts dont la durée outrepassait de beaucoup celle de la vie humaine. Revenons maintenant au style japonais Yamato-e, dont il est aisé de voir, par contraste avec une transformation métrique, quels sont les effets stylistiques du choix d'une transformation affine. Le premier effet, c'est le parallélisme des droites. Aussi loin qu'elles s'étendent, elles ne convergent jamais. Et c'est une disposition en apparence contre-intuitive, mais qui est rendu plausible ici par le choix du point de vue en plongée, dans laquelle l'horizon soit n'est pas figuré, soit ne coïncide pas avec le plan horizontal des édifices. Donc le parallélisme, il est évident partout où il y a des édifices. Vous voyez ici, c'est l'édifice à deux droites parallèles qui se prolonge à l'infini, qui ne correspondent évidemment pas du tout à ce que l'on peut reconstituer comme étant l'horizon. L'invariance du parallélisme, elle est également visible dans la représentation des figures humaines. Les figures humaines conservent une taille constante, quelle que soit leur distance par rapport au point d'observation, en contraste marqué avec la manière dont on les représente dans les transformations projectives ou dans les transformations par similitude. Alors ici, c'est une scène de guerre, donc c'est un peu désordonné, évidemment. Mais en tout cas, vous remarquez que les personnages du premier plan, si on estime la distance entre ces deux édifices, on doit peut-être avoir une centaine de mètres. Ça n'empêche que les personnages ici, au premier plan de cet édifice, on voit bien que ceux-là sont plus loin, puisqu'il y a la convention de l'élévation dans l'image pour signifier la distance, mais ils sont même d'ailleurs légèrement plus grands que ceux du premier plan. Donc là aussi, il y a un parallélisme, pas simplement dans les édifices, mais dans la manière dont on dépeint les figures humaines. Et l'invariance du parallélisme dans les deux domaines, les édifices d'un côté, les figures humaines dans l'autre, renvoie à une congruence dans la géométrie de la perception visuelle. En effet, si la taille des personnages diminuait sur le fond d'une construction qui conserve son parallélisme, par exemple une route ou un mur ou une façade, on obtiendrait un paradoxe perceptif avec une transformation affine pour les édifices, donc des lignes convergentes, et parallèle, pardon, se déployant dans l'espace et une transformation projective pour les espaces, pour les personnages qui sont insérés dans cet espace. Et donc les uns et les autres, le rapport entre les deux paraîtrait incongru. Or, la plupart du temps, le choix d'un type de géométrie représentationnelle est conservé pour la totalité de l'image. On a ici un exemple, si vous voulez. On a donc bien ici une géométrie parallèle, hein, c'est-à-dire c'est cette terrasse, les lignes de cette terrasse ne sont pas convergentes à mesure que l'on recule vers un point de fuite, et les personnages sont aussi à la même taille, quelle que soit leur position dans l'image. Si ces personnages diminuaient, mais que par ailleurs les édifices conservaient leur parallélisme, on aurait un paradoxe perspectif. Cela dit, certains invariants ne sont pas toujours aisés à identifier. Par exemple, les images de la côte nord-ouest, tout comme le style japonais Yamatoe, sont construits à partir de transformations affines et à partir d'un point de vue situé à l'infini optique. Pourtant, il est difficile, dans le cas des images de la côte nord-ouest, de repérer le parallélisme des droites qui caractérise les transformations affines, dans la mesure où ce que l'on dépeint, ce sont des animaux ou des êtres chimériques, et jamais des édifices ou des objets avec des bords parallèles. Donc on ne peut pas vérifier cette caractéristique. Les seules traces que l'on ait de parallélisme sont des traces très ténues. Simplement, les animaux ne sont jamais dépeints de façon projective, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en raccourci, par exemple, avec des pattes arrière qui seraient plus petites que des pattes avant. Quant aux invariants projectifs de l'art occidental, ils sont, comme on l'a vu, très réduits, puisque la dimension, la forme, la distance, le parallélisme, la perpendicularité disparaissent dans la transformation projective. Et si nous arrivons néanmoins à interpréter ces images si éloignées des propriétés géométriques des objets qu'elles dépeignent, et qui donc de ce fait devraient être les moins réalistes qui soient, c'est d'abord évidemment en raison de la domestication de notre regard par l'éducation qui rend presque naturelle la perspective dite artificielle, mais c'est aussi parce que ces images construites en perspective linéaire conservent des invariants dérivés importants que sont les gradients au moyen desquels nous percevons de façon continue dans nos déplacements la profondeur d'un champ et la dimension relative des objets dans ce champ, c'est-à-dire la variation des éléments de texture et de dimension qui se transforment à mesure que nous avançons dans un champ. Et la perspective artificielle, au fond, elle n'est qu'une transposition dans une image fixe de ce mouvement continu de réajustement des objets dans notre champ visuel. Et c'est ce que Boas, par exemple, voulait dire lorsqu'il remarquait dans Primitive Art que la figuration en perspective linéaire peut être considérée comme la plus réaliste des techniques de figuration si et seulement si l'on accepte que l'essence du réalisme est de reproduire fidèlement une apparence momentanée. Et il est possible, en effet, que l'une des caractéristiques essentielles de ce mode de figuration que j'appelle naturaliste et qui se caractérise précisément par la perspective linéaire, soit de figer dans une image une minuscule tranche de temps appréhendée de façon subjective, tel aspect fugace de la mer et du ciel à tel moment du jour, en telle saison, telle expression d'un personnage à telle époque de sa vie, en telle circonstance particulière. Et chaque image devient un instantané. mais un instantané pour quelqu'un. Une extension du regard qu'il porte sur le monde en un lieu et en un instant précis. Et c'est ce qui fait la grande différence dans l'emploi de la géométrie projective par rapport aux autres géométries. Les images naturalistes prolongent la sphère du moi. Toutes les autres images dépeignent le monde tel qu'il est vu par un sujet, mais sans que le point de vue du sujet n'y soit physiquement présent. On en a un bon exemple dans ce tableau très célèbre de Botticelli, qui raconte la triste histoire de Lucrèce et qui est construit selon un dispositif identique à celui adopté par la peinture japonaise, du style Yamato-e, c'est-à-dire que différents événements se déroulent à des moments distincts, mais sont dépeints sur une même surface. Mais au lieu de répartir les épisodes dans des vignettes qui sont physiquement déconnectées les unes des autres ou séparées par des nuages, comme le fait la peinture japonaise, Botticelli a intégré les trois épisodes de la vie de Lucrèce dans un même espace unifié par la géométrie projective. À gauche, donc, le viol de Lucrèce, hein, par le fils de Tarquin, le roi de Rome. À droite, le suicide de Lucrèce devant son père et son mari, si mes souvenirs sont bons. Et puis, troisième événement, c'est le corps de Lucrèce exposé sur le forum. Et du fait de la perspective linéaire, le spectateur est directement concerné. Il est comme un voyeur pour qui la scène a été spécialement reconstituée. Alors, il reste maintenant... j'ai considérablement dépassé l'heure. Il reste maintenant à examiner un dernier point, ce que je ferai dans la leçon prochaine, à savoir les techniques de composition qui s'attachent à rendre les volumes, ou qui au contraire négligent de rendre les volumes par des moyens qui ne sont pas des moyens purement de géométrie comme ceux qu'on a étudiés jusqu'à présent, et qui se combinent donc aux options géométriques que nous venons d'examiner dans l'expression des choix de rendre visible dans une image telle ou telle propriété des choses perçues. Alors on pourra à ce moment-là tenter, une fois apporté ce dernier élément, de mettre en correspondance des schèmes ontologiques et des schèmes visuels, et c'est ce que nous ferons lors de la prochaine leçon.